On s'est dit dans deux jours c'est l'été. On s'est dit on a envie de danser sur une musique qui claque comme un mur du son. On s'est dit qu'aujourd'hui Pop & Co serait Pop & Salsa, musique latine née à New York dans les années 60. Elle se jouait d'abord dans des clubs et salles de bal où on se montrait pour rouler des hanches et frimer. Et puis elle a conquis les stades où on pouvait hurler les paroles en yaourt ou pas et rouler des hanches toujours avec des morceaux étirés sur une demi-heure. Si aujourd'hui la musique latine est un marché à part entière de l'industrie, la salsa a sans doute ouvert la voie. Et pour ça, il y a eu Fania. Fania Records, la maison de disques qui a inventé ce nouveau son latin et à laquelle était associé un groupe d'une quinzaine de musiciens les meilleurs de la place. C'était la Fania All Stars. Il y avait là Ray Barreto, Johnny Pacheco ou Celia Cruz. Le catalogue de la Fania est un continent de 1000 disques, tandis que Pop & Co se termine souvent par une seule et unique chanson. Ce matin, on entre dans les coulisses d'une nouvelle composition de Bertrand Burgala. Le titre du morceau est comme une promesse. Il s'appelle « L'homme idéal ». Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
New York, 1964. Vous êtes ici.
8 millions d'habitants sur 800 km², 8 fois la surface de Paris, dans les 5 parties de la ville. Le cœur, le cerveau, Manhattan.
Cap sur le nord, quelque part entre le sud du Bronx et le Spanish Harlem, quartier où vit la communauté latino, cubains, panaméens et beaucoup de portoricains. Lui vient de République dominicaine. Il est flûtiste, il s'appelle Johnny Pacheco. L'autre est italo-américain, il est avocat, il s'appelle Jerry Masucci. Pacheco Masucci, fondateur de Fania Records, maison de disques qui aura le quasi-monopole de la salsa. La salsa ou la bande-son du barrio, ghetto latino de New York des années 60 et 70, la salsa ou bande-son des bas-fonds de Manhattan.
Alors, la salsa.
Je vous présente François-Xavier Gomez, journaliste au service international du quotidien Libération. Lui ne dit pas le barrio pour désigner le ghetto latino, mais el barrio.
C'est des quartiers difficiles, hein. C'est une partie de Harlem, donc dans les années 50-60. C'est des quartiers qui sont déshérités, où la police est brutale et violente, voire raciste. C'est là où vivent les musiciens. Donc leur musique, elle va refléter ces conditions de vie et les textes des chansons qui sont très importants dans la salsa aussi vont raconter un peu cette chronique du barrio et de tout ce qui s'y passe. Et puis bon, bah, les thèmes de la salsa aussi dans les chansons, on va retrouver ces personnages propres au barrio qui sont, oui, des frimeurs et qui peuvent être aussi des voyous, des personnes un peu de marginales mais toujours très bien habillées et qui en mettent plein la vue.
Le personnage de voyou le plus célèbre mis en scène dans la salsa se prénomme Pedro. Et le titre de la chanson qu'il fait exister s'intitule Pedro Navaja. Elle sort en 1978. Pedro Navaja égale plus grosse vente de la salsa de tous les temps. Pedro Navaja égale figure incontournable de la mythologie populaire latino-américaine. Voici comment il vécu, voici comment il est mort.
Usa un sombrero de ala ancha de medio lado.
Pedro Navaja porte incliné un chapeau à large bord et des espadrilles pour s'envoler en cas de problème. Des lunettes noires pour qu'on ne sache pas ce qu'il regarde et une dent en or qu'on voit briller quand il rit.
Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez.
Vous vous doutez qu'après, forcément, ça se gâte. Pedro poignarde une prostituée qui l'abat d'une balle d'une Smith & Wesson calibre 38, ce qui nous fait deux morts sur le trottoir.
Un carro pasa muy despacito por la avenida.
Et la chanson raconte que dans le quartier, personne n'a bougé. Il n'y a qu'un ivrogne qui a ramassé le flingue, le poignard et le pognon.
Pedro Navaja, c'est la création d'un auteur-compositeur, chanteur, chef d'orchestre qui s'appelle Rubén Blades. C'est un chanteur panaméen et il a introduit dans la salsa des textes beaucoup plus travaillés, une sorte, on peut presque dire, de chanson d'auteur. Donc Pedro Navaja, c'est Pierrot la lame, je crois que c'est la traduction que donne Bernard Lavilliers dans une de ses chansons. C'est un personnage qui est inspiré par un autre mythe qui est Mac the Knife, un personnage de l'opéra de Katsu de Bertolt Brecht et Kurt Weill. Rubén Blades va adapter cette mythologie du voyou des bas-fonds à la réalité du barrio, et son instrument, ça va être la salsa, bien entendu.
Un passage de Pedro Navaja reprend avec ironie « I like to live in America », un des refrains de West Side Story.
I like to live in America.
Et le refrain dit « La vie te réserve des surprises, il y a 8 millions d'histoires à New York. Pedro Navaja ou la chronique de la violence ?» Dans le barrio des 70s.
C'est l'éloge du voyou, quoi, cette fascination qu'on peut avoir, peut-être malgré nous, pour ces gens qui sont en marge de la loi et qui le revendiquent, quoi, et pour lesquels c'est un véritable mode de vie. C'est un peu un débat qu'on va retrouver ensuite avec les rappeurs qui parlent souvent de voyous et à qui on va reprocher de faire l'éloge de cette. De l'illégalité et de la marge. Ces rappeurs, finalement, étaient les enfants ou les petits-enfants des musiciens de salsa.
La disco, comme le rap, ont la même géographie que la salsa. Harlem et le Bronx. On trouve d'ailleurs des Portoricains parmi les pionniers du hip-hop. Les rappeurs aussi feront le récit de la vie du ghetto. Et avant eux, ce sont les musiciens de la salsa qui cultiveront un look de voyou. Le morceau que je vous fais écouter là s'intitule El Malo, le mal. Il est signé Willy Colon, tromboniste et chef d'orchestre, plus Hector Lavoe, soit Hector Lavoie, immense chanteur, par ailleurs camé. Je vous donne quelques-uns des titres de leurs albums en duo, Le Crime, Paix, La Grande Évasion. Pour la pochette de celui-ci, Willy Colon apparaît en photo, comme sur les fiches d'identification judiciaire. Et au-dessus de son visage en noir et blanc, on lit « Recherché par le FBI ». C'était tellement réaliste qu'à l'époque, la police a reçu des appels du genre « Venez cueillir le type que vous recherchez, il passe en concert à côté de chez moi ». Pour ses concerts, Hector Lavoe pouvait se pointer avec plusieurs heures de retard. Il finissait par arriver tout sourire en lançant au public « Mais c'est vous qui étiez en avance ?» François-Xavier Gomez, journaliste à Libération.
Les musiciens ont aimé se mettre en scène eux-mêmes comme des voyous. Alors, il y a aussi des musiciens qui ont connu la prison. Ça a été le cas d'Ismael Rivera, un chanteur très important qu'on appelait El Sonero Mayor, c'est-à-dire le meilleur chanteur improvisateur. C'était le cas de Mon Rivera, qui était le roi du trombone, un extraordinaire musicien. Et c'était deux musiciens qui étaient plutôt basés à Porto Rico, qui faisaient des allers-retours entre Lille et New York, et qui, dans le cadre de ces allers-retours, remplissaient leurs valises avec des substances pas très légales, qui se sont fait prendre et donc qui ont passé quelques années en prison. Parce qu'il y avait aussi une certaine porosité, je pense, entre ce monde du business musical et la pègre.
La naissance de la salsa à New York est liée à un fait historique qui vous est annoncé sur les ondes de la RTF.
Midi Actualité, une émission de Maurice Hutin et Paul-Louis Mignon.
Nous sommes le 1er septembre 1959.
En politique étrangère, l'écho le plus sonore est celui qui nous parvient de Cuba. En effet, Fidel Castro est enfin entré à La Havane. Nous allons tout de suite rejoindre notre envoyé spécial Philippe Diollet. À vous La Havane.
Fidel Castro est là, devant moi. Écoutez les cris. Il est en train de parler. Il est en train de demander à la foule de se taire.
Castro leur dit que c'est un moment décisif dans l'histoire de la révolution. La tyrannie a été vaincue. La joie est immense. Et cependant, il reste encore beaucoup à faire.
Avec la révolution cubaine en 59, ce flux de musiciens cubains qui arrivaient très régulièrement, qui faisaient des allers-retours entre Cuba et New York, ce flux va se tarir. Donc les musiciens latinos de New York vont avoir un peu plus d'espace pour développer une musique qui leur est propre et qu'on va appeler salsa, ce qui veut dire la sauce, c'est-à-dire un mélange en fait de beaucoup de choses.
La salsa égale sauce. Le mot circule de plus en plus au début des années 70 et c'est Johnny Pacheco, dénicheur de talent et directeur artistique du label Fania Records, qui précise la définition pour Salsa Connection, émission de la RTBF.
The way we played it, that's why we call it salsa because there's a conglomeration of.
Voilà pourquoi on l'appelle salsa. Il y a un mélange de différentes races à New York. Il y a des gens d'Amérique du Sud, des Caraïbes, de Cuba, de Porto Rico. C'est comme une sauce avec toutes sortes d'ingrédients. C'est une musique de danse à cause du rythme. Quand vous l'entendez, vous devez taper dans les mains. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes sourd ou vous êtes mort.
La salsa puise dans la musique cubaine déjà présente aux États-Unis bien avant les années 60 avec le mambo et le cha-cha. La salsa va donc mélanger les rythmes de toutes les communautés latino en ajoutant le jazz, le rock, la soul dans la marmite. Un mélange pour lequel la jeune génération des années 60 et 70 va répondre présente. Ce morceau-là, Oye Como Va, va définitivement entrer dans les oreilles du grand public avec la reprise qu'en fait le Mexicain Carlos Santana en 1970. L'original a été composé par le New-Yorkais d'origine portoricaine, Tito Puente, surnommé le roi des timbales.
En revenant dans le New York latin, j'ai eu envie d'écrire une chanson plus tendue, plus dure, sur l'autre côté du décor, celui de l'avenue A, B, C ou de la 177e rue.
Qui parle et qui chante? Bernard Lavillier. Il raconte sa découverte de la salsa. C'était pour l'émission Les Enfants du Rock du 12 avril 1986, parce que 6 ans plus tôt, Lavillier publiait l'album O Gringo, sur lequel figurait
La salsa. C'est une latine des Manhattan, de la résine des mandadans. Un coup de fouet, des hauts en bas, qui te soulève, c'est la salsa.
C'est une frangine portoricaine qui vit dans le Spanish Harlem, les reins cambrés au bon endroit. Elle est superbe, c'est la salsa.
Lavillier raconte sa fierté d'avoir enregistré avec le joueur de congas Ray Barreto. C'est Barreto qui lui a servi de guide dans le Spanish Harlem. Lavillier a aussi interviewé le pianiste Eddie Palmieri, dont je vous rapporte les propos. les arrangements de la salsa font évoluer la musique vers une sorte de paroxysme sonore, de tension maximum. Ça doit suivre une courbe ascendante jusqu'à l'éclatement final que déchaîne le public. Après plusieurs solos, l'orchestre s'embrase et ça explose. Dans le chaudron new-yorkais, la salsa a peut-être réalisé le vieux rêve du général Bolivar. Unir sous une même bannière, au sein d'une même culture, d'une même passion, des peuples aussi différents que les Colombiens, les Portoricains ou les Cubains. Alors dans le titre à venir, Rubén Blades fait l'appel de tout le monde.
Panama,
presente.
Puerto Rico,
presente.
México,
presente.
Venezuela,
presente.
Perú,
presente.
República Dominicana,
presente.
Cuba,
presente.
Costa Rica,
presente.
Colombia,
presente.
Lui est portoricain, c'est Cheo Feliciano avec El Raton. Vous écoutez Pop & Co, épisode Pop & Salsa sur France Inter.
Mi gato se está quejando que no puede vacilar. Donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está detrás de mi casa, a ver si puede fugarse. Tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío se va a formar. Cuando mi gatito sepa. Y es tan simple la razón.
Alors, la salsa.
François-Xavier Gomez, journaliste à Libération.
Il faudrait d'abord parler de ce concept de sonero ou sonera, puisqu'un chanteur de salsa est pas seulement un chanteur qui a une belle voix, un beau timbre, mais un chanteur qui est capable d'improviser. Donc les morceaux de salsa en général sont très longs, on va donc développer un thème, et puis un petit peu comme dans le jazz, la deuxième partie va être consacrée à des improvisations des instrumentistes assez brèves, et le chanteur aussi va se mettre à improviser, s'inspirer de choses de l'actualité ou du moment présent ou d'une femme qui est dans la salle et qui lui sourit. Ou, ce qu'on appelle le sonero, c'est sur scène qui prend toute sa place et toute sa valeur. Si le musicien est en forme, s'il sent des bonnes vibrations qui viennent du public, si le public est très nombreux, il va improviser pendant 10, 20, parfois 30 minutes. Il n'y a absolument aucune limite. D'autant que il y a une sorte de refrain que reprend le public, c'est un dialogue entre le public et le soliste, et que si ce dialogue se passe bien, eh ben, le public est galvanisé, il va crier de plus en plus fort, et puis c'est ça qui fait toute la saveur et la particularité de la salsa.
El hombre de la mano dura, Rey Barreto.
Alors les gens qui ont inventé la salsa, notamment Joe Mazzucci, l'avocat, il se rend compte que les disques, c'est très bien, ça se vend bien, mais pour répandre la bonne parole de cette musique, il faut organiser des concerts pour que les gens voient que un concert de salsa, ça va beaucoup plus loin qu'un disque de salsa. Donc il crée ce groupe, en fait, il va réunir tous les meilleurs musiciens du label Fania et les meilleurs chanteurs, et il va faire d'abord des concerts à New York avec eux dans des stades de baseball, donc des endroits très grands, et puis ensuite des tournées à travers le monde.
Et ce groupe des meilleurs musiciens du label Fania, inventeur de la salsa, ce groupe de virtuoses, disais-je, s'appelle Fania All Stars. Ce concert-là se déroule le 24 août 1973 devant 60 000 personnes réunies au Yankee Stadium de New York. Je vous redonne le jour, 24 août 1973, parce qu'il fera date dans l'histoire de la salsa, et le lieu, Yankee Stadium.
Et donc le Yankee Stadium, c'est le temple du baseball à New York. Donc investir un lieu pareil, c'était vraiment un coup médiatique assez fumant.
Ça a valeur de symbole.
Bien sûr, bien sûr. Ça symbolise que les Latinos sont chez eux à New York. C'était une forme, une façon de dire, nous, on est ici chez nous... On a autant le droit d'être ici que les Anglos, et puis bon, le baseball est le sport américain par excellence, donc s'installer dans un stade de baseball, ce serait peut-être l'équivalent du Stade de France chez nous, quoi. C'était une consécration. En amenant vers le succès cette musique qui naît du ghetto, le label Fania, qui donc a quasiment créé un monopole autour de la musique salsa, a créé un phénomène de fierté, puisque c'est une musique qui s'est exportée. Dans les années 70, on écoute la salsa dans toute l'Amérique latine. C'est un phénomène mondial, cette expansion de la salsa new-yorkaise. Donc oui, c'est très clairement un signe qui va rendre les latinos extrêmement fiers de leur héritage et de leur langue et de leur culture.
Et voici venir l'une des grandes voix de la salsa, Celia Cruz.
Celia, c'est un personnage qui...
Ah, vous dites Celia, vous.
Oui, oui, parce que j'ai eu la grande chance de la connaître, de la rencontrer plusieurs fois, et puis c'est un personnage tellement qui attirait tellement l'affection que je me suis pas rendu compte, mais oui, c'est vrai, tout le monde l'appelle Celia. C'est une figure maternelle, quoi. C'était une femme extrêmement bienveillante qui travaillait la nuit. La vie des cabarets, c'était ça. C'était un premier set à minuit, un autre à 2h du matin, et finir à 15h du matin, mais qui se couchait très tôt les jours où elle travaillait pas, quoi. Le fait d'être sur scène devant le public la transforme et en fait une sorte de personnage absolument incendiaire Tito Puente disait que quand il avait entendu pour la première fois, il pensait que c'était un homme qui chantait. C'est un compliment, quoi. C'est une voix extrêmement puissante. Il y a vraiment c'est une véritable tempête qu'on entend. Il y avait un truc absolument incroyable avec cette femme, quoi.
Colora, interprétée par Celia Cruz, va devenir l'hymne du label Fania Records. Chaque concert se déroulait comme une messe, les chanteurs se présentaient sur scène par ordre de notoriété croissante et elle, Celia, arrivait en dernier, parce que c'est elle qu'on attendait, cette cubaine, désignée reine de la salsa. Dans une de ses improvisations sur ce titre, Bemba Colora, elle avait chanté « Si ton mari te frappe, frappe-le à ton tour. Si tu ne peux pas avec les mains, attrape une poêle à frire. »
Tu veux te mettre là si tu veux, je viens là.
C'est la chanteuse Angélique Kidjo qui organise le plan de table pour une interview dans le bureau de Pop & Co.
Il y a eu des stars de la salsa en Afrique. Youssou Ndour a commencé sa carrière à faire de la salsa, Salif Keita, de même. Moi j'ai grandi dedans moi.
En puisant dans la musique cubaine, les racines de la salsa sont africaines. Les musiques latines sont donc présentes en Afrique de l'Ouest en 1960. La chanson qui célèbre l'indépendance du Congo s'intitule d'ailleurs Indépendance Tcha-Tcha. Quant à la salsa, elle accompagne la jeunesse africaine qui grandit dans ces années-là. Il y a 2 ans, Angélique Kidjo a dédié un album entier à des reprises de Celia Cruz. Et la première fois qu'elle l'a vue sur scène, c'était chez elle, comme elle dit. Donc, au Bénin.
Elle était venue avec Johnny Pacheco et plein d'autres musiciens. Et c'était la première fois que je vois une femme sur scène qui chante de la salsa. Parce qu'il faut bien dire ce qui est, la salsa c'est une musique de mec. Pendant des années, il n'y avait même pas de choristes dans les groupes de salsa. C'est que des mecs tout le temps. Donc, elle arrive, elle change tout. Quoi. Ce qu'elle a transformé pour moi, c'est ce doute que j'avais toujours en me disant est-ce qu'une femme a une place dans la musique? Parce que c'est un monde de mecs. Moi, j'ai grandi dans une famille de 7 garçons. Même que mon père passait son temps à nous dire que le talent n'avait pas de sexe. Partout, tu regardes, il n'y a que des mecs qui ont des groupes. Qui, tout. Et Célia, quand elle est arrivée, ça a été terminé ce doute. Je me suis dit, si Celia peut mettre les mecs à genoux en faisant la salsa, il n'y a plus rien qui m'arrêterait. Et c'est parti comme ça. Sa voix, ce n'est pas seulement chanter la salsa, elle faisait de la percussion avec sa voix. Parce qu'au niveau tempo, au niveau justesse, sa voix est un instrument. Quand elle est sur scène et qu'elle commence, c'est la tête du wagon. C'est elle qui tire tout le monde. C'est la seule quand même qui a fait la première partie de Aretha Franklin au Radio City Hall où c'est marqué devant 2 queens. Il faut la voir sur scène pour comprendre l'impact qu'elle a pu avoir sur de jeunes filles parce qu'il fallait le faire quand elle a commencé. Avec le racisme, le machisme et tout le bazar, on l'appelait café au lait. Et puis, est-ce qu'elle se fâche? Non, elle ne se fâche pas. Elle a suffisamment beaucoup d'humour. Son cri à Soukar, c'est une réponse à tous les machos et tous les racistes, en fait. Parce qu'elle dit ça, tout le monde, elle met tout le monde d'accord.
Azoukar, ça veut dire sucre. Qu'est-ce que ça sous-entend? Rien que ce mot-là, ça renvoie à quoi?
C'est les métisses, les cafés au lait. Donc, elle dit, mais moi, si vous avez, vous ne voulez pas votre café au lait, vous avez besoin du sucre. Et c'est à cause du sucre que mes ancêtres noirs sont arrivés ici dans des bateaux d'esclavage. Donc en un mot, elle a répondu à 2 questions complètement fondamentales de ce qui se passe dans le monde, en fait.
Oui, c'est-à-dire que Azoukar, ça faisait aussi référence au champ de canne à sucre.
Absolument.
Mais il y avait aussi ce côté bête de scène, des costumes. Elle était flamboyante.
Mais ça fait partie aussi de toute la réponse. Quand on subit autant le racisme, on a envie que tu disparaisses, surtout quand t'es une femme. Elle a dit, moi je disparais pas, vous allez me voir, mais de loin. à des kilomètres, vous allez me voir. Vous allez m'entendre et vous allez me voir.
Soga! Vaya!
Ça, c'est le générique du journal télévisé de 20h. Nous sommes le 31 octobre 1974.
Au Zaïre, depuis ce matin, il y a quelqu'un avec un œil au beurre noir, c'est George Foreman.
Oui, atmosphère de fête populaire à Kinshasa, capitale du Zaïre, à l'occasion du combat de l'histoire opposant Mohamed Ali au tenant du titre mondial des poids lourds, George Foreman. Ce nouveau combat du siècle est effectivement entré dans le domaine de l'histoire africaine. Ali avait avoué son ambition. En venant combattre ici au Zaïre, il souhaitait être un élément précurseur, celui qui allait ramener au bercail tous les Noirs américains des États-Unis. Ali devenait ainsi un symbole.
Les musiciens de la Fania All Stars seront présents au Zaïre au moment de ce championnat du monde poids lourd historique. Il y a aussi James Brown ou Myriam Makeba. Parce qu'en marge du combat Mohamed Ali, George Foreman, le maréchal Mobutu a souhaité un concert pour démontrer la puissance de son pays au monde entier. François-Xavier Gomez, journaliste à Libération.
Les musiciens étaient très conscients de leur héritage africain. Par exemple, Celia Cruz, au début des années 70, se met à porter des coiffures africaine et des vêtements africains. Pour eux, c'était un retour, en fait. Aller en Afrique, c'était faire le voyage qu'avaient fait leurs ancêtres esclaves. Quand ils se retrouvent en Afrique, ils se rendent compte que le public connaît leurs chansons. Les spectateurs, parfois, brandissent des vinyles, peut-être dans l'espoir de les faire dédicacer ou juste pour montrer qu'on vous connaît, on est vos fans. Et pour cause, les personnes qui ont créé ces musiques étaient leurs lointains cousins, séparés par quelques siècles d'histoire et de souffrance, mais les musiciens en parlent comme d'un retour aux sources.
Et maintenant,
la Lupe, la Gigi, que nos dice la guaracha, el carbonero, la Lupe.
La présentatrice de WAPA TV, télévision portoricaine, vient de vous l'annoncer, le dernier personnage de ce pop and salsa s'appelle La Lupe, chanteuse cubaine, et présentement, c'est François-Xavier Gomez qui assure les présentations.
Pour attirer l'attention sur elle, parce qu'il y avait beaucoup de chanteuses célèbres à Cuba, elle va faire des numéros très excessifs, où par exemple, elle va enlever ses talons aiguilles et taper sur la tête du pianiste, pousser des cris perçants. Enfin, c'est une personnalité excentrique. Elle avait cette réputation quoi, d'être ingérable. Elle jouait beaucoup sur ce côté femme au bord de la crise de nerfs, voire complètement dans la crise de nerfs. Et en fait, Pedro Almodovar va utiliser certaines chansons de La Lupe dans ses films et il s'est toujours revendiqué fan de La Lupe.
Teatro, lo tuyo es puro teatro.
Pour les génériques de fin de son film Femme au bord de la crise de nerfs, Pedro Almodovar a justement choisi cette chanson interprétée par La Lupe. Puro Teatro, une chanson qui dit « J'ai d'abord fait confiance à la fièvre de tes baisers, mais aujourd'hui, t'as beau pleurer, je sais que ça n'est que du théâtre. »
Lo tuyo es puro teatro.
La Lupe n'était pas le genre de femme à se voir imposer des partitions. En 1966, elle entend le tube de Sœur Sourire à la radio américaine. Et zou, elle en fait une version espagnole sur une bande-son merengue.
Dominique, nique, nique, pobremente por aquí.
Parmi les chansons qui ont compté dans son répertoire, il y a surtout La Tirana, la femme tyrannique.
Il y a une lecture féministe de cette chanson, qui est bon, par ailleurs écrite par un homme. Ce qu'elle veut dire, c'est que la femme a toujours le mauvais rôle dans une relation. C'est elle qui va porter sur ses épaules la faute. C'est le paroxysme permanent avec La Lupe, mais en particulier dans cette chanson. Et les femmes du monde hispanophone se sont beaucoup identifiées à cette chanson.
If you think this was good, very good. Wait till you hear my next one. Wow!
La prochaine chanson de La Loupée, ce sera la dernière de cet épisode de Pop & Co. C'est une reprise de Fever, parce qu'avec elle, le mercure monte à coup sûr à 40 degrés. La Loupée, ou la pionnière des durs à cuire, des badass contemporaines.
Groovy baby, groovy. Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight. Everybody got the fever, that is something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó. You give me fever, ay. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever, in the morning, fever all through the night. Everybody, 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 everybody got the fever, that is something you all know.
Dans ce Pop & Salsa, vous avez entendu la voix de François-Xavier Gomez, dont vous pouvez suivre la plume dans les pages du journal Libération, la voix d'Angélique Kidjo, son nouvel album Mother Nature vient de paraître, et vivre les concerts de la Fania All Stars, groupe des plus grands musiciens du label Fania Records, c'est possible, grâce à deux documentaires. L'un s'intitule Salsa, il est signé Jean-Pierre Janssen, ou Janssen, pardon pour la prononciation. L'autre, c'est Our Latin Thing, Nuestra Cosa en espagnol. L'auteur, c'est Léon Gass. Et les liens sont sur le site de Pop & Co.
Rebecca.
C'est marrant, hein, il suffit vraiment d'une seconde pour sentir qu'on n'arrive pas au bon moment ou au bon endroit quand on appelle quelqu'un. Ce jour-là, Bertrand Burgala, compositeur, interprète, arrangeur, patron du label Trigatel, Bertrand Burgala, disais-je, participait à la préparation d'un concert à l'Olympia. Et il a trouvé du silence pour choisir le prochain disque de Pop & Co.
Le titre que j'ai choisi, c'est « Gueule de bois, Pôle emploi » par Mustang. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'était une chanson qui parlait aussi de mon actualité, d'une façon.
Mustang, ces trois garçons qui se sont rencontrés à Clermont-Ferrand il y a 15 ans. Ce morceau, c'est donc « Pôle emploi, Gueule de bois » paru sur leur nouvel album, sorti au printemps.
Je vais péter tranquillement sur mon sofa. Et regardez Gordon Ramsay sur Teva. Je vais commander une énorme pizza. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Je ne veux pas parler de l'avenir avec toi. De cet enfant que jamais. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. J'ai reçu mon virement de Pôle emploi. C'est mon problème. Si cet argent je le vois, je paie mon loyer, alors bouge de là. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Je sais qu'on n'a pas baisé depuis des mois. As-tu l'impression que je suis en état? Tu t'es vu alors, ne t'étonne pas. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Toi aussi tu aimes sortir au. On s'amusait tellement, nous deux, souviens-toi. On baisait même sous des porches parfois. On n'avait jamais la gueule de bois. J'ai reçu mon virement de Pôle emploi.
là. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Oh, laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Ouh, laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Laisse-moi profiter de ma gueule.
Voilà, vous prenez sur la gauche, vous allez voir.
Au bout du fil, la voix se veut rassurante parce que je suis complètement paumée dans un dédale d'immeubles, de passerelles et d'escaliers d'un quartier de Courbevoie.
Quand vous allez sortir de là,
j'aurai trouvé Bertrand Burgala. Burgala Bertrand, compositeur et interprète d'un nouvel album qui s'intitule Rêve Capital. Bertrand Burgala, qui fait aussi GPS ce jour-là.
Et donc là, est-ce que sur votre droite, dans la rue Arletty, vous avez un coiffeur ?
Pas du tout.
Ah ouais, non, c'est pas ça.
Ce matin, dans Pop & Co, on va tenter d'entrer dans les coulisses d'une chanson dont le refrain commence comme ça.
L'homme idéal, c'est moi.
L'homme idéal, c'est aussi le titre de la chanson, un texte écrit par le romancier et parolier Laurent Chalumeau. Et une fois atteint le 17e étage de la tour où vit Bertrand Burgala, j'ai demandé...
Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce texte-là ?
En fait, quand je lis un texte... Oh. Merde, attendez. Je suis désolé, c'est un peu décousu notre affaire. Attendez.
Quand Laurent Chalumeau a envoyé le texte de l'homme idéal à Bertrand Burgala, il l'a présenté comme ceci. « Je t'envoie ce manifeste qui ira bien avec ta garde-robe. » Réponse de Burgala, « L'homme idéal, mais je m'y colle de rechef. » Conclusion de Chalumeau, « Applique-toi, nos retraites en dépendent. »
Je me méfie des chansons très narquoises où on se fiche des autres, là c'est pas le cas. Donc c'est plutôt moi qui pontifie, qui me ridiculise. Parfois on a des énervements sur la société, je me méfie de mes propres agacements. Parce qu'on peut être très présomptueux, très prétentieux, et c'est assez facile de se moquer, en fait. Et je trouve qu'une chanson, elle doit être à la fois personnelle, mais elle doit dépasser nos personnes. Donc je me demande pas, par exemple, est-ce que ça me ressemble, de quoi je vais avoir l'air, si je chante ça, je m'en fiche complètement.
C'est l'été, saison des concupiscences. Le soleil te réchauffe l'essence. Des tentations bronzées te font. Je regarde la mer. Oui, car l'homme idéal, c'est moi. Encore faut-il trouver quelqu'un qui me mérite. L'homme idéal, c'est moi. Le sort a dit, ce serait toi. Projectiles m'ont fendu l'occiput. Des choses qui arrivent dans les disputes. Mais les disputes, ce n'est pas cher payé. Si je peux te ensuite se rayer. L'homme idéal, c'est moi.
C'est-à-dire tous les poncifs un peu masculins. Et en même temps, c'est touchant. C'est-à-dire que. Hommes ou femmes, mais les hommes aussi se débattent dans cette société en essayant d'être du mieux qu'ils peuvent. Et enfin, le personnage, s'il existe vraiment, il serait touchant.
Rappelons que cette chanson composée et interprétée par Bertrand Burgala commence par ce vers de Laurent Chalumeau.
C'est l'été, saison des concupiscences. Le soleil te réchauffe l'essence.
Déjà, j'adore le fait qu'il met des mots précieux.
Et compliqué à chanter.
Mais, oui, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont une musicalité. Pour moi, c'est un enchantement de mettre ce genre de phrases en musique. Ce qui est bien, c'est que souvent, on pense trop les chansons en termes de rimes. Et la vraie musicalité, ça peut être un peu irrégulier. Au contraire, ça pousse à faire des mélodies différentes.
Des tentations bronzées te font l'enfer. Moi serein, je regarde la mer.
Moi, je n'arrive pas à dire des choses que je peux ressentir profondément en les appuyant. Et j'ai toujours peur d'être lourd, d'être sentencieux. Et donc, du coup, on prend le risque aussi de passer pour léger. Mais c'est un malentendu comme un autre, ça ne me gêne pas.
Et le travail en studio, vous aimez ça ?
J'adore ça. Je ne supporte pas les gens qui font la gueule en studio. Je trouve ça d'une indécence. On a rêvé depuis qu'on est gosse de faire des disques, d'être en studio. Quand je suis au studio, ça veut dire aussi être avec des musiciens et des musiciennes que j'aime. C'est un moment de grande joie. Il ne faut pas se censurer. Ce qui est intéressant, c'est d'être à la fois le plus libre possible et sans être complaisant. La guitare elle-même, c'est Stéphane Salvi des Dragons. Il a le canevas et c'est sa façon de jouer de la guitare sur quelque chose comme ça, qui est très spontané. J'adore son style parce que c'est d'une grande élégance, d'une grande précision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à rétrécir, y compris de très bons musiciens. Ils se censurent beaucoup parce qu'il y a un problème d'attention. Les choses sont très, très répétitives. Et ce qui est bien avec Stéphane, c'est qu'en même temps, il y a toujours des petites nuances. Moi, j'adore ça. J'adore les cordes. Et là, je me restreins parce que j'ai tendance, j'adore avec les cordes quand il y a des triples croches, des envolées, espèces de tourbillon comme ça de cordes. Ça l'aurait mis dans un truc plus disco, par exemple. Et c'est pas mal si on peut essayer de faire quelque chose d'un peu dansant qui swing sans utiliser forcément cette ficelle-là. Naturellement, moi, j'aurais tendance à rajouter des trucs partout et tout ça. Donc, je me pousse quand même à la concision. C'est pareil, j'essaie de pas être trop bavard. Je suis bavard. Hein.
La vie est courte, donc savoure et profite. L'homme idéal, c'est moi. Et ne vois pas qui d'autre à part toi.
Comme je ne sais pas si c'est moi qui vais le chanter à ce moment-là, quand je le fais, je ne change pas la tonalité. Je le fais dans la tonalité dans laquelle je l'entendais, en le jouant. Mais après, j'adapte ma voix à ça. Et j'aime bien ça aussi. C'est que ça me pousse à chanter dans la tonalité naturelle dans laquelle j'ai fait. Mais parfois, il m'arrive d'interpréter des chansons qui ne sont pas du tout pour ma tessiture. Bon, ben, c'est pas grave.
Vous aimez ça, chanter ?
Ben, j'aime bien, en fait. J'aime bien, mais je ne me définis pas comme chanteur dans la mesure où... Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de créer des chansons, qu'elles existent.
Comment vous vous êtes mis à chanter, vous ?
Ben, je m'y suis mis d'abord sur les disques des autres. C'est-à-dire que quand je produisais les disques des autres, souvent je faisais des pistes et des pistes de chœur, parfois. Donc pour moi, c'était assez naturel, en fait, de faire des voix. Mais ce qui n'était pas naturel du tout, c'était d'être au premier plan, d'une certaine façon. J'ai mis beaucoup de temps à sortir mon premier album. Il était quasiment prêt en 95 et il est sorti en 2000. Et pendant ces 5 ans-là, j'étais très déstabilisé par ce qu'on me disait. Parce que, comme ce que je faisais n'était pas vraiment dans l'air du temps, quand on ne sait pas vraiment quoi dire d'un morceau, le truc le plus facile, c'est qu'on attaque la voix. Parce que c'est l'élément le plus friable, c'est l'élément le plus humain, c'est le plus subjectif. On dit, ouais, la voix, je sais pas. Bon, des choses comme ça. Et pour la personne qui chante, c'est extrêmement déstabilisant. Donc je me retrouvais après, que ça soit en studio, et encore pire au début en concert, bah, c'est comme quelqu'un à qui on dit, t'embrasses mal. Bah, après, c'est difficile d'embrasser, quoi. Et puis au bout d'un moment, j'en ai plus rien à faire. J'ai essayé de chanter de la façon la plus naturelle possible. Mais il m'a fallu un moment... pour passer outre, disons, ce côté-là. Moi, je fais très attention, je reçois beaucoup de maquettes et j'essaie de faire très attention de ne pas donner des conseils déstabilisants, d'essayer de donner des impressions qui soient les plus précises possibles. Parce qu'autrement, on peut faire beaucoup de dégâts, je pense.
Bertrand, à quoi vous pensez le soir en vous couchant ?
Ça, c'est une voix que vous connaissez, celle de Vali, qui s'est prêtée au jeu d'une fausse interview à l'intérieur de la chanson « L'homme idéal » de Bertrand Burgala.
Ah bon ? Si vous étiez une garniture à pizza, laquelle ?
Pour moi, la musique, c'est quand même quelque chose de l'ordre de la joie, de l'ordre de... Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on doit faire doit être rigolo, souriant et tout ça, pas du tout. Mais il y a 60 000 morceaux qui sont mis en ligne tous les jours. On est dans un monde qui est quand même souvent un peu déprimant. Et il faut avoir un peu de retenue par rapport à tout ça. Et il faut essayer d'apporter des choses... Enfin, qu'ils soient différentes, essayez, hein, je dis pas qu'on y arrive. Mais autrement, c'est sinistre.
Souvent, on me demande mes trucs, mon secret.
Après les fausses questions de Vali...
En un mot, comment je fais pour être ce que je suis ?
Les fausses réponses de Bertrand Burgala qu'il joue dans sa chanson.
Je réponds généralement, si je le savais, du coup, je ne le serais pas. Eh oui, forcément. Et je vous laisse cogiter à ça.
En fait, je me moque, non pas de l'interview, mais de la vedette en promo, qui est toujours agacée par les questions qu'on lui pose, alors que moi, je trouve que c'est génial qu'on pose des questions. C'est une chance formidable qu'il y ait des personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait. Tout à l'heure, je vous disais qu'en studio, je supporte pas les gens qui font la gueule, mais les gens qui font la gueule parce qu'ils font trop d'interviews ou trop de promos, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces enfants gâtés? Il y a tellement d'artistes, de personnes formidables, et pas que dans la musique, mais dans la vie qui méritent qu'il y ait de l'attention sur eux. Quand il y a des personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait, je trouve que c'est une chance.
Et Jacques a dit, ce serait toi.
Bertrand, à quoi vous pensez le soir en vous couchant?
Souvent, on me demande mes trucs.
C'est quoi vos trucs,
mon secret.
Vos secrets?
En un mot, comment je fais pour être ce que je suis?
Comment vous faites pour être...
Je réponds généralement, si je le savais, du coup, je ne le serais pas.
Ah bon?
Eh oui, forcément.
Si vous,
je vous laisse cogiter à ça.
Une garniture à pizza.
Lancer des ports, j'ai bien peur qu'il en reste encore. Jamais n'ai-je tenté le harcèlement. Ici on fait de l'harcèlement. Dès lors, l'homme idéal, c'est moi. Longtemps cherché quelqu'un qui m'aimait. L'homme idéal. De suite, ce serait toi. Because l'homme idéal, c'est moi. La vie est courte, donc savoure et profite. L'homme idéal, c'est moi. Et ne vois pas qui d'autre à part toi.
Rêve Capital, c'est le titre du nouvel album de Bertrand Burgala. Vice, c'est le titre du nouveau roman de Laurent Chalumeau, paru chez Grasset. Je précise aussi que The Sound of Music, premier disque de Bertrand Burgala paru en l'an 2000, vient d'être réédité. Et je crois que j'ai tout dit. Koyan Guyen pour la réalisation, avec Tristan Gratalon ce matin, Ilinka Negulescu pour les recherches sonores et documentaires, Jean-Baptiste Audibert pour la programmation musicale, et vous avez l'équipe de Pop & Co. La semaine prochaine, samedi 26 juin, jour de la marche des fiertés, Pop & Co sera entièrement dédié à la façon dont la chanson francophone a parlé et parle d'homosexualité, de Fernandel à Angèle, en passant par Juliette Gréco et Francis Lalanne. À samedi.